l'écho d'économie.
Après 3 semaines d'arrêt d'activité, la vie commerciale a normalement repris ce lundi à Boutembo. Mais avant cela, c'est-à-dire le week-end, les opérateurs économiques ont demandé à l'autorité urbaine de plaider en leur faveur auprès des services taxateurs de l'État pour que des pénalités fiscales ne leur soient pas appliquées pour ce mois. Le mouvement citoyen Bandundu en action plaide pour l'asphaltage de la route Mongata-Bandundu sur la nationale numéro 17. La dégradation de cette route de grande importance économique a plongé la ville de Bandundu dans l'enclavement. Le projet Yabiso serait-il le parapluie de Dan Gertler en RDC? Ce questionnement est même l'intitulé du rapport de la synergie de la société civile présenté le week-end ici à Kinshasa. Le rapport porte sur l'exploitation minière en RDC. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous à Écho d'économie sur Radio Okapi. Toutes les activités économiques ont repris normalement ce lundi à Boutembo. Cela après 3 semaines de fermeture de boutiques et magasins dans la ville. Dans une rencontre le week-end, les opérateurs économiques de Boutembo ont demandé l'implication de l'autorité urbaine afin que les différents services publics ne leur imposent pas de pénalités fiscales après ce moment difficile qu'ils ont parcouru. Sadiq Aboubakar pour plus de détails.
Des opérateurs économiques de Boutembo disent être des victimes de première ligne de l'insécurité permanente à Beni. Hormis le massacre de personnes, leurs marchandises et des camions entiers sont également la cible de rebelles qui les incendient sans aucune pitié. C'est ainsi qu'ils ont décidé de la fermeture de leurs activités en vue d'exiger le rétablissement de la paix dans la région. Cependant, en dépit de ces 3 semaines de grève, les taxes et impôts de l'État doivent être payés. C'est ainsi qu'à l'ouverture des activités, ces commerçants ont sollicité l'implication de l'autorité urbaine.
Le maire de la ville nous a demandé de reprendre les activités. Il nous a rassuré la sécurité. Nous avons également des soucis par rapport aux différents services de l'État qui peuvent nous appeler pour des pénalités. Pourtant, nous tous, nous ne travaillons pas. Mais aussi nos bailleurs, nous ne savons pas comment les payer. C'est pourquoi nous lui demandons de nous aider, d'être l'intermédiaire auprès des services étatiques, que nous puissions payer quand toutes les activités vont reprendre normalement.
Sans aucune promesse faite, le maire de la ville de Boutembo, Sylvain Kanyamanda, envisage de réunir les responsables de tous les services fiscaux opérant dans la ville en vue d'échanger sur la faisabilité de cette démarche. C'est après tous ces processus que le maire de la ville aura une réponse à donner aux opérateurs économiques, a-t-il précisé.
Le Premier ministre Samalou Kondé a dévoilé ce lundi son programme d'action devant la représentation nationale. C'est un programme avec plus de 300 actions à mener pour un budget rectifié de 8,4 milliards de dollars américains. Je vous propose un extrait de cette présentation du Premier ministre.
Le gouvernement axera son action autour des piliers ci-après. Dans le domaine économie et finance, le gouvernement de la République s'investira à améliorer la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances publiques. Il sera aussi question de favoriser l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer les investissements et assurer la promotion de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne. Il s'agira ensuite de concrétiser dans les faits l'impératif de la diversification de notre économie afin de créer les conditions d'une croissance inclusive, gage d'un progrès durable. Dans le secteur de la reconstruction du pays, les 3 piliers importants restent la modernisation des infrastructures de base et l'aménagement du territoire, la promotion et le développement du numérique et de celles des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la création des conditions d'un développement durable. Tout d'abord, à propos de la diversification de notre économie. Toutes les actions à mener viseront bien sûr la redynamisation et la promotion de tous les secteurs de notre économie. Mon gouvernement mettra un accent particulier sur la revanche du sol, sur le sous-sol, c'est-à-dire l'agriculture. Il ne s'agira plus de compter que sur le seul secteur minier ou pétrolier. L'agriculture doit redevenir le premier secteur pourvoyeur de richesses et d'emplois dans notre pays. Il en sera de même pour le tourisme. L'ensemble de ces secteurs devront être boostés par une politique d'industrialisation que mon gouvernement s'engage à mettre en œuvre.
Écho d'économie.
Je vous l'ai dit en titre, les jeunes de Bantundu, membres du mouvement citoyen Bantundu en action, déplorent la dégradation très avancée de la route nationale numéro 17 dans son tronçon compris entre le village Mongata et la ville de Bantundu. Cet état de route a plongé la ville de Bantundu dans un total enclavement, ce qui fait dire à ces jeunes qu'ils sont oubliés de Kinshasa. Ainsi, ils demandent au Premier ministre de prêter une oreille attentive à leurs demandes pour obtenir l'asphaltage de cette route d'importance capitale, surtout sur le plan économique pour la province. Un extrait de leur déclaration rendue par Alliance Mitanda au micro de Irène Boma.
Nous, membres du mouvement citoyen Bantundu en action, un regroupement de jeunes de la majorité, opposition, société civile et confession religieuse sans tendance tribale et ethnique. Après constat et étude de la situation de la route nationale numéro 17, tronçon Mongata Bantundu, nous avons l'impression d'être abandonnés par les autorités. Autorité nationale. La route nationale numéro 17, tronçon Mongata Bantundu, est dans un état de délabrement total et même impraticable. La population et les commerçants de la province de Kwilu en général et de la ville de Bantundu en particulier subissent les conséquences de la détérioration de ces tronçons. Les voyages s'effectuent dans des conditions inhumaines. Le vivre et bien des consommations pourrissent avant d'atteindre les lieux de destination suite au nombre de jours qu'il faut mettre alors que Bantundu se situe juste à quelques kilomètres de la capitale. Et nous appelons le chef de l'État de s'impliquer personnellement dans cette affaire pour concrétiser sa promesse, dit-on, les peuples d'abord. Nous attendons des personnes précitées l'asphaltage de la route nationale numéro 17, tronçon Mongata Bantundu, pour que la population de Kwilu se retrouve et vive à nouveau.
L'entreprise Ligne Maritime Congolaise est en mission de 11 jours dans l'est de la RDC. Après le Nord Kivu, la délégation de cette entreprise est arrivée à Bukavu ce lundi. Elle est allée à la rencontre des autorités provinciales du Sud Kivu où elle a rencontré le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, le ministre de Transport et Voies Maritimes aussi, quelques entreprises notamment la DGDA, Amikongo et Ogifrem. Rachel Kiesse nous en dit plus.
Par cette prise de contact, l'entreprise Ligne Maritime Congolaise, LMC, veut implanter sa succursale au Sud Kivu en ouvrant des nouvelles lignes et en construisant des ports secs. Signalons que Ligne Maritime Congolaise existe depuis 47 ans en RDC. Il s'agit donc de l'ancienne compagnie maritime du Congo et à l'époque du Zaïre, la compagnie maritime zaïroise. Les débuts de l'implantation et dans un futur proche, suivez le directeur de LMC, Cédric Chizayinga Kapumba.
Notre visite avec Bukavu, c'est étant une entreprise du portefeuille de l'État. Nous sommes en train de voir comment relancer nos activités. C'est ainsi que nous avons jugé bon aussi d'installer les lignes maritimes congolaises dans les différentes provinces de la République, en commençant par l'Est. Nous sommes venus ici à Bukavu dans le même sens. Les lignes maritimes congolaises, c'est l'entreprise qui transporte les cargaisons venant de l'extérieur vers la RDC. Alors comment est-ce qu'on peut aussi être sur le flux qui vient sur le corridor central ou le corridor nord qui desservent les provinces de Sud Kivu et Nord Kivu? Et l'État veut être là pour transporter les cargaisons des Congolais.
Quel est l'apport des lignes maritimes congolaises par rapport à d'autres entreprises maritimes? Monsieur Chizayinga Kapumba répond.
L'apport de LMC, d'abord, vous devez savoir que LMC, c'est l'État. Donc, ça veut dire que LMC va créer de l'emploi. LMC va créer de l'emploi pour les Congolais. Et LMC va venir créer et générer de l'argent pour le trésor public.
Après le Nord et Sud Kivu, la mission de Ligne Maritime Congolaise dans l'Est du pays va se clôturer en Ituri.
Yabiso, le parapluie de Dan Gertler, ses questionnements, c'est l'intitulé du rapport de la synergie de la société civile « Le Congo n'est pas à vendre » présenté jeudi à Kinshasa. Ce rapport porte sur l'exploitation des mines en RDC et selon Jean-Pierre Okinda, chercheur et membre de cette synergie, la RDC perd chaque jour 200 000 dollars américains en termes de royalties. Jean-Pierre Okinda le dit au micro de Paul Matendo.
Je crois que la motivation de la quête, elle est une motivation donc congolaise, prioritairement. Parce que ça fait depuis le temps que nous sommes en train de constater que le secteur minier n'apporte pas des dividendes escomptés au peuple congolais. Et surtout que la contribution du secteur minier reste très faible, donc la recette de l'État, mais aussi dans l'économie congolaise de manière générale. Et pendant que nous sommes en train de travailler dedans, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de contrats et qui n'étaient pas divulgués. Nous avons été surpris d'apprendre de la part de M. Dangetler qu'il avait racheté le royalties de Metalcol et qu'il avait tout acheté et des royalties et en même temps il faisait une offre au peuple congolais. Nous étions au courant que le royalties n'appartenait pas seulement à la Gécamines et donc nous nous sommes mis qu'il faut comprendre justement quand même la teneur de l'offre et comprendre si l'offre qui est faite sur la partie de la Gécamines ou alors c'est aussi sur l'ensemble de tout. Mais aussi comprendre les circonstances qui ont finalement conduit à la cession par la Gécamines et à l'achat par M. Dangetler de toutes ces royalties-là. Ça, c'était la motivation. La deuxième et la dernière, c'est que, et que finalement, qu'on apporte des éléments au peuple congolais pour que les gens comprennent réellement c'est quoi les buts du projet Yabisso.
Quels sont les résultats auxquels vous avez abouti?
Je crois qu'on est arrivé à trois résultats principaux. La première chose, nous avons tous compris que les royalties ont été privatisées au profit d'un seul individu, de M. Dangetler. Donc, il en a profité. Je rappelais en disant, vous allez voir dans la note, que les lois de finances successives de 2014 en 2018 reprenaient les royalties, la part des 50%. Parce qu'il faut préciser au peuple congolais que les royalties, c'est un paiement que l'entreprise publique prélève de la société créée ensemble avec un investisseur étranger. Et on prélève ces paiements-là qui est basé sur la production. Que vous ayez fait le profit ou pas, vous devez payer à l'entreprise publique un pourcentage, généralement, et qui est autour de 2,5%. Et c'est les cash. C'est peut-être le seul revenu cash que la Gécamines peut avoir, que l'État congolais peut réaliser, qui est bénéfice ou pas. Et dans ce problème-là, la loi veut que les Congolais, les citoyens congolais prennent 50% et que l'entreprise publique garde 50% qu'elle va utiliser dans ses affaires. L'analyse a montré qu'en réalité, M. Gettler a tout pris, a tout acheté. Ça, c'est le premier résultat qu'on a vu qu'il a tout acheté. Et deuxième résultat, en analysant maintenant et le loi de la RDC, nous avons compris qu'il a acheté en toute illégalité. Aucune disposition, même pas minimale de la loi. Donc le monsieur finalement devient patron de royalties congolais en toute violation de la loi et ça nous a poussé à comprendre qu'il y a une complicité de la part des autorités. Une des royalties la plus importante de toutes les mines de KCC. Le contrat dont il a acheté ce royalties-là jusqu'à présent n'est pas publié. Du point de vue d'impact, 200 000 $ chaque jour que nous perdons. Chaque jour, aujourd'hui-là, il va toucher 200 000 $ américains. Demain, la même chose.
Pour ça. Et qu'est-ce que vous recommandez à l'État congolais?
Alors, nous sommes en train vraiment de recommander à l'État congolais et aux partenaires de l'État congolais en leur disant, sur le plan international, M. Dangetler est sous action sur des allégations graves de corruption. C'est cité nommément, comme il y a comme des actes de corruption au Congo. Nous disons aux autorités congolaises, surtout au président Tshisekedi, il est important maintenant d'ordonner une enquête au Congo. Ordonner une enquête au Congo, et le pays, souhaitons qu'elle soit judiciaire ou qu'elle soit menée par une institution de contrôle, il faut le faire. Ordonner une enquête au Congo, parce que la finalité, c'est que le Congo récupère. On ne peut pas voir que des États amis qui sont en train de se battre, qui sont en train de prendre l'initiative, qui réalisent qu'il y a eu corruption commise au Congo, et qu'au Congo, on ne fasse rien. Deuxième chose que je vais dire, indépendamment du président Tshisekedi, il faudrait que le Parlement congolais entre en jeu. On ne peut pas avoir un Parlement qui va avoir sous secteur un secteur minier des actifs qui vont nous coûter des milliards de dollars américains si on continue à le laisser. Donc, il faut prendre des actions concrètes dans le sens d'ordonner une enquête parlementaire, ordonner une enquête judiciaire ou une enquête financière, en tout cas rigoureuse et indépendante, de manière à ce que le peuple congolais sache si exactement les messieurs à qui se ratisent là donc dans de bonnes conditions ou pas, et dans les cas contraires, nous remettre nos ratisons.
Merci.
Je vous en prie.
Fin de Écho d'économie sur Radio Capi. Merci de continuer à l'écouter sur www.radiocapi.net.